Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée. C'est celle qui met en avant vos acteurs locaux, c'est-à-dire ceux qui font vivre le territoire. Et c'est vous-même, bien souvent. Aujourd'hui, nous recevons Christine Gardien, Marie Griman et Pierre Bouvinet de l'association Jules Vachereau. Bonjour tous les trois, comment allez-vous?
Bonjour.
Et bonjour. Ça va, merci Jean-Philippe.
Alors, il fait beau, en plus, il fait beau.
En plus.
C'est un beau temps, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes dehors en train de vous occuper des plantes, enfin.
En train de jardiner.
C'est ça. Tu nous prives de notre plaisir.
Mais c'est pour vous faire partager aux auditeurs. C'est pour la bonne cause. On va passer une petite heure ensemble, on va découvrir votre association et ses réalisations, qui sont visibles d'ailleurs. Mais d'abord, on va écouter le Flash Info national et international, et on se retrouve tout de suite après pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures. Alors, la tradition ici, on aime bien cuisiner un petit peu les invités, bon, gentiment, mais juste pour avoir une petite idée de leur trajectoire personnelle, leur bio. On ne demande pas le casier judiciaire ni le CV. En général, on se contente de beaucoup moins que ça. Donc, est-ce que vous voulez vous adonner à cet exercice? Oh, je sens la joie et l'enthousiasme.
Non, mais je vais commencer. Allez. Alors, je m'appelle Christine Gardien, je suis l'un des adoptions depuis 25 ans. Voilà, je suis arrivée ici pour exercer ma profession, enseignante spécialisée, donc auprès des enfants handicapés, voilà. Et je suis adhérente de la première heure dans l'association ABES. J'ai rencontré Pierre et Marie qui étaient en train de travailler dans la forêt. J'ai l'habitude d'aller me promener en forêt et voilà, c'est comme ça que j'ai adhéré au projet et que j'y suis toujours depuis 3 ans.
Très bien, merci. Au suivant, qui est-ce qui se lance? Normalement, c'est toujours les dames.
Non.
Ben oui.
Okay. Marie Griman. Donc, je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap. Je suis éducatrice de formation. Je suis revenue dans les Landes depuis 8 ans. C'est grâce à Pierre que j'ai découvert le domaine d'Abès, la forêt. Et nous avons découvert le site il y a 3 ans.
Oui.
Et après cette découverte, on a eu envie de créer une association. Et depuis, on a perduré l'aventure.
D'accord.
Avec d'autres personnes.
Très bien. Eh bien, on va passer à Pierre, bien sûr, maintenant.
Eh bien, bonjour à tous. Pierre Bouvinet, donc ouvrier espace vert et jardinier. Et puis, alors comme Christine, d'accord, d'adoption depuis une bonne dizaine d'années, mais locaux quand même, puisque j'ai habité sur Tarnos pendant une vingtaine d'années avant. Et voilà, et puis l'histoire pourrait être très longue sur Abès, mais en gros, on a sillonné un peu tous le site, tous nos adhérents ont sillonné le site il y a maintenant 3-4 ans. Et dans ce cadre magnifique, en fait, y a un autre cadre que Jules Vachereau, le nom de l'association, en fait, a remanié le domaine. C'est un architecte paysagiste qui a remanié le domaine et à la demande du châtelain. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant.
Ouais, d'accord, de toute façon, Vachereau, c'est un nom qui va revenir, je crois, n'est-ce pas? Alors, cette rencontre avec ce lieu, pourquoi ce lieu vous le connaissiez, vous êtes tombé dessus par hasard, il était connu pour être en friche, on va dire. Qu'est-ce qui vous y a attiré et pourquoi?
Moi, je me promenais assez souvent dans cette partie de la forêt. Je cherche toujours la verdure, donc c'est vrai que sur Saint-Paul, il y a le lac et puis il y a cette forêt d'Abès. J'avais repéré qu'il y avait des bâtiments qui étaient abandonnés parce que la maison du jardinier était enfouie sous les ronces et ça m'intriguait beaucoup. Moi, je suis très curieuse, donc j'aime bien savoir toujours ce qui se cache. Et on me disait, oui, il y a quelqu'un qui habite dedans. À l'époque, il y avait effectivement une personne qui l'avait squatté. Bon, et je trouvais dommage que ça reste comme ça. Et petit à petit, à force de se promener, on a vu que sur l'arrière, il y avait aussi d'autres bâtiments, etc. Donc ça m'a un petit peu intriguée. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait rien sur le plan d'Internet pour savoir un petit peu. Il n'y avait pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est Pierre qui m'a tout apporté au niveau informatif. Et surtout, l'idée de ce monsieur Jules Vachereau, un paysagiste de renom sur la région parisienne, mais que finalement, ici, on n'avait pas trop... reconnue. Et moi, c'était ça qui me plaisait, c'était de pouvoir faire revivre une histoire.
D'accord. C'est à la fois réhabiliter le lieu
et la
personne. Enfin, elle n'avait pas besoin d'être réhabilitée, elle, mais de la faire remettre en lumière un petit peu.
Tout à fait. Puis de se dire que sur notre commune, on a effectivement des choses qui ont été grandioses à un moment donné et très connues et que, bon, il faut les faire ressurgir.
Bien sûr, oui. Alors, c'est un site qui a une histoire particulière, hein, une histoire industrielle notamment. C'était des forges, des anciennes forges.
Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. Bon, on ne va pas parler des forges parce que c'est un chapitre qui est quand même très très long, qui commence bien avant 1820 avec Borda d'Oro et qui va jusqu'à à peu près 1918, finalement, la fin de la première guerre mondiale. Et à ce moment-là, le propriétaire, qui est le fils des maîtres des forges, le propriétaire du château d'Abbesse, en fait, va mandater trois architectes de renom. Et celui-nous qui nous intéresse, c'est Jules Vacherot, puisqu'à l'époque, c'est le plus grand architecte paysagiste du monde. Et donc, il va remanier ce site industriel et en faire des jardins à la française sur les quatre façades du château. Voilà, et donc les promeneurs qui aujourd'hui passent à Abbesse passent forcément par l'allée du château qui est une belle allée double de marronniers et de platanes. Et voilà, donc il y a des clins d'œil comme ça partout sur tout le domaine qui sont artistiques, notamment la platanerie de l'étang d'Abbesse. Et des essences remarquables et magnifiques. C'est pour ça à la base qu'on est tous venus sur le site. En fait, il y a une biodiversité exceptionnelle notamment qui est native. Mais qui a également été apporté par l'architecte supplémentaire.
Alors, j'allais dire quelle mouche lui a piqué d'aller chercher cette personne de renom. Fallait-il qu'il ait vraiment besoin d'avoir des compétences aussi pointues et aussi les moyens de le mettre en œuvre, j'imagine. Comment ça se fait? Parce que cette personne-là, c'était sorte de star à l'époque. Il y avait des stars de paysagisme. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et pourquoi est-ce qu'on est allé chercher à lui?
Mais tu as tout à fait raison, Jean-Philippe. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on veut des Ferrari, on veut des, des choses un peu, m'as-tu vu, etc. Mais à l'époque, il faut comprendre qu'il n'y avait pas tout ça. Et donc, c'était vraiment le concours du plus beau jardin. Après, Vacherot a bénéficié d'une époque particulière, puisqu'on est à la fin de la révolution industrielle et qu'en fait, on a les héritiers de cette révolution industrielle qui vont pouvoir un petit peu profiter de cet argent et en faire des belles choses. Et on est aussi sur la belle époque. Donc, on est sur les années où... Vacherot a pu bénéficier d'une époque particulièrement florissante pour son métier, en fait, qui n'existait pas avant, finalement, puisque les architectes paysagistes n'existaient pas vraiment. Ça s'est démocratisé, justement, à partir de cette période, puisqu'à l'époque, en fait, les gens faisaient surtout des potagers et ne faisaient pas des jardins pour l'art. Oui, ça n'avait pas d'intérêt particulier, quoi.
Les gens avaient le côté utile, quoi.
Et pour en revenir à ce que tu disais, Daniel Boulard a été baron de l'Empire, en fait. Charles Boulard, qui est donc le père de Daniel, c'est lui le commanditaire du réaménagement. Il était baron de l'Empire, en fait, et donc riche industriel, quoi, de l'époque.
Oui, alors j'imagine que ça a dû coûter beaucoup d'argent et beaucoup.
On n'a pas
de
les sommes,
aussi,
c'est ça que tu veux savoir.
Ah, ben non, mais moi, c'est toujours rien. C'est curieux d'avoir un ordre d'idées, parce que c'est vrai que... Et le temps, en tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est peut-être avoir l'idée du temps et de gens qui ont travaillé sur ça à l'époque, en tout cas. Ça vous donne une petite idée, puisque vous y êtes confronté en repassant dessus. Ça a dû être des chantiers qui ne se faisaient pas en un mois, tout ça.
Mais probablement, effectivement, sachant que le domaine est très très vaste. Il couvre à peu près une vingtaine d'hectares. Et les jardins à la française, il a même conçu un état artificiel. Et nous, on a justement, on a pu... commencer en 2023 à proposer à la mairie, en fait, le projet de réaménagement d'une parcelle, la façade ouest, qui est la maison des jardiniers, où il y a un bassin qui existe encore. En fait, ce bassin était destiné à l'orangerie, et cette orangerie était bordée de deux platanes. Elle a été détruite dans les années 80 par les projets de golf. On ne va pas revenir dessus. Et en fait, nous, on avait cette parcelle où, puisque je fais partie du groupe de travail avec le maire, en fait, sur la réhabilitation des jardins. Et j'avais proposé à monsieur Bazus de défricher cette parcelle. Et en plus, c'est emblématique parce qu'on est collé à la maison des jardiniers. Ça a été un gros travail de 2 ans, et où on a défriché tout ça à la main. sans aucun engin mécanisé. Voilà, donc on a tout fait à la main. Il a fallu ensuite dessoucher tout ça. On a arraché des centaines, voire des milliers de pieds de ronces. Et ensuite, on a commencé à étudier un petit peu tous les plans de Vacherot, puisqu'on a accès à tout ça dans son livre. Et à ses ouvrages, il y en a quand même quelques-uns dans la région. Et on a pu essayer de proposer quelque chose en fait, qui allait pouvoir s'imbriquer, s'inspirer de ce qu'il a fait et s'intégrer sur la parcelle où on est. Voilà, on a eu le feu vert de la mairie. Et donc, ça y est, après 2 ans, on a réalisé ce petit jardin à la française qui est commémoratif.
D'accord. Bon, on va déjà faire une première petite pause, écouter un petit peu de musique, et puis on va continuer à découvrir votre association et tout ce qu'elle a fait. On se retrouve après ça. Et nous voilà de retour. Alors, ça tombe bien parce que c'est le printemps. Hein, et donc, on parle de jardin, on va parler de jardin, etc. Alors, jardin à la française, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un jardin à la française? Une petite définition, là, parce que quand on ne peut pas montrer d'image, on est à la radio, il va falloir employer les mots.
Bon, je me lance, allez. Je préfère ça, je vais essayer d'être rapide et concis. Jardin à la française, alors, c'est un style qui est inspiré de la Renaissance italienne, et c'est un style qu'on appelle classique régulier. Il y a plusieurs styles de jardin, en fait. Bon, en gros, il y a le style anglais, le style français, mais bon, il y a aussi le style japonais, etc. Bon, il y en a plein d'autres. En gros, le style français, c'est régulier, c'est symétrique, c'est des alignements, c'est géométrique. Et le style anglais, c'est plutôt chaotique, c'est un art d'imitation de la nature.
D'accord.
Juste une petite anecdote, parce qu'aujourd'hui, le style anglais est beaucoup plus démocratisé. Il faut comprendre que même le style anglais a été inventé par un Français.
Ah, ça y est, j'ai senti le petit cocorico là.
C'est ça. Il s'appelle Charles Dufresny. Il était à la cour de Louis XIV. Ouais. Et donc, il s'est fait virer parce que ça ne plaisait pas à Louis XIV, ces styles de jardin anarchiques.
Et oui, c'était trop sauvage, voilà. Entre guillemets.
Et il allait en Angleterre. Et 30 ans plus tard, ça s'est démocratisé en Angleterre. Donc, c'est bien un Français qui a inventé ça aussi.
Alors après, c'est particulier, hein, je veux dire, parce que c'est effectivement assez géométrique, hein, très géométrique même, hein, parce que c'est toujours fascinant de regarder les plans notamment. Alors, on en parlera peut-être encore, mais c'est vrai que si vous avez un site web, vous avez des infos, et vous avez une page YouTube avec plein de vidéos. Alors ça, c'est bien, faut que les auditeurs aillent, je mettrai un lien, parce que là, vraiment, on voit vraiment les petits bassins, on voit les fameux platanes, on voit ce qui a été défriché, on imagine un petit peu l'ampleur du chantier, voilà. Sachant que, dans quel état est le site à l'heure actuelle? Mission accomplie? Point d'interrogation.
Ben, oui, je rebondis, juste avant Marie que tu parles. Oui, mission accomplie, normalement au printemps, parce qu'on a, sur le petit jardin qu'on a fait, 50 rosiers en fait d'abbesse qu'on a récupérés sur... les deux roseries qu'il y avait de 500 mètres carrés, et ces rosées commencent à arriver à maturité, et on va avoir aussi un petit parterre à l'entrée, donc on espère que cette année vraiment ça sera en fleurs et très florifère, très floral et un peu volubile, comme était finalement un peu le jardin de la façade est.
D'accord.
Oui, tu posais la question si le jardin a été presque fini. Notre mission a été accomplie, effectivement. On a valorisé le bassin, on a même fait intervenir deux spécialistes des nénuphars pour mettre en valeur ce bassin.
C'est vrai,
voilà, les jardins de Gabitine.
Il y a un petit jet d'eau solaire.
Donc, Pierre a rajouté un petit jet d'eau solaire.
Oh, c'est sympa.
Et ensuite, on a vraiment proposé d'autres créations. Et, voilà. Donc, ça va être effectivement, comme l'a dit Pierre... finalisé au printemps.
Alors, le site lui-même est en son entièreté bien plus vaste que ce que vous avez restauré. Est-ce qu'il y a des projets sur ça? C'est quoi qui doit se passer en théorie? Enfin, vous n'êtes pas forcément impliqué vous-même directement, mais quand vous avez travaillé étroitement avec la mairie, vous devez avoir une idée.
Voilà, c'est ça. La mairie a racheté le domaine en 2024, si j'ai bonne mémoire, début 2024. Et en fait, elle a le projet de réhabiliter en fait, progressivement les jardins ornementaux et également le potager. Donc pour l'instant, c'est beaucoup c'est la participation citoyenne, puisqu'il y a également des bergers avec une ganaderia, et avec également un élevage de brebis, de moutons, un autre berger. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses, mais c'est des associations et une participation citoyenne qui... Mais après, je peux pas te répondre si tu veux pour l'instant, Jean-Philippe.
Ouais.
mais bon, pour voilà. La suite, quoi.
S'il y a un jardin encore à faire, enfin, en tout cas, on sait qu'on a quelqu'un de compétent pour s'en occuper.
Mais après,
Une entité, oui, je pense compétente, et puis surtout qui s'inspire de l'histoire de vécu. Et à venir, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a quand même, dans notre association La Famille Boulard, la descendante de La Famille Boulard, qui nous met à disposition toutes ses archives, et qui nous permet de, qui a vécu sur site pendant, pendant une bonne partie de sa vie, et qui est la mémoire, en fait, de ce qu'on fait, et voilà, qui peut nous dire si on fait bien ou si on fait pas forcément bien, quoi.
Oui, parce que c'est une restauration, en théorie, donc...
Voilà.
Avec un petit peu de... Vous avez peut-être été obligé, techniquement d'ailleurs, de faire des petites impros, des petites choses perso qui ne sont pas tout à fait identiques à l'égal pour diverses raisons, j'imagine, quand on restaure quelque chose.
C'est ça. Alors en fait, là, le jardin où on est, en fait, ce n'est pas du tout, entre guillemets, une restauration. C'est vraiment une création, mais qui s'inspire de ce qu'a fait Vachereau. Ouais. Voilà, c'est expliqué justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la chaîne YouTube. Alors, il faut comprendre que le dernier épisode n'est plus du tout d'actualité. Il y en aura un, bien évidemment, au printemps. Et c'est toujours un peu la consécration des jardins, quoi.
Oui. C'est vrai que c'est le métier de la patience, quand même.
Absolument.
Avec la nature. Hein, parce que, en plus, il y a une saisonnalité dans les actes qu'on doit faire. Il faut faire dire, ah oui, on fera ça, mais à tel moment, et pas n'importe quand on a envie. On est un peu contraint par ce genre de choses.
Bah surtout qu'on a une nature à Abbesse qui est particulièrement riche et très, entre guillemets, beaucoup d'abnégation, si tu veux, dans le jardin qu'on fait. Bon, c'est comme disait tout à l'heure Christine, c'est vrai que si on laisse un petit peu la nature faire...
Et oui.
Entre les vers qui binent la terre, les tops qui te retournent la terre.
Les sangliers.
Les sangliers.
Ah oui, les sangliers, ça retourne la terre.
Faut pas oublier qu'on est en plein milieu de la forêt et que l'espace n'est pas clôturé, donc on peut être effectivement. Moi, j'ai envie de dire que je suis très fière de ce jardin et qu'à chaque fois que j'ai des amis qui sont pas de la région, c'est la promenade. C'est-à-dire que je les amène là. Je suis très, très fière de voir qu'on a créé en plein milieu de la forêt un jardin aussi parfait, rectiligne et beau et fleuri. C'est ça qui nous motive aussi, c'est et les gens s'arrêtent énormément de gens puisqu'on est vraiment le jardin est au bord de la route, donc tous les gens qui passent pour aller un petit peu plus loin vers le lac se rendent compte qu'il y a là des gens qui œuvrent et qui font quelque chose d'un petit peu particulier. C'est un travail de longue haleine, mais ça vaut la peine parce qu'il a une visibilité extraordinaire. Et dans les projets, moi je me dis que on peut amener des jeunes. On a pour projet peut-être cet été de faire des petites animations sur le lieu déjà pour expliquer ce que c'est et puis aussi toute la variété de plantes.
Faire un peu une médiation avec le lieu.
Oui, faire un petit peu parler ce lieu et puis quitter un peu la ville et vraiment très très près de Saint-Paul, avoir un endroit comme ça où il y a de grandes richesses, quoi.
Bon, je pense que c'est une chance hein, pour la ville d'avoir restauré cet endroit parce que ça fait un petit joyau, surtout qu'il existait avant. Bon, du coup, on a toujours un petit peu.
Oui, il y a l'histoire et puis il y a aussi celle qu'on veut faire nous, quoi, petit à petit. Se dire que même à l'intérieur d'un endroit qui était complètement en friche, complètement invisible pour les gens, on a ramené de la lumière et quelque chose de très.
C'était l'idée.
Voilà,
initiale.
De très très joli, quoi, de la beauté. Voilà.
Et la maison des jardiniers, alors, va-t-elle être habitée?
Alors, la maison des jardiniers, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, effectivement, comme tu le dis, ben, c'est quand même un peu, pas le cœur, mais c'est quand même très important. Parce que bon, le site fait à peu près une vingtaine d'hectares. Le parc, parce qu'en fait, bon, si on peut revenir un petit peu à Vachereau, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a quand même, il a fait des jardins à la française, mais il est quand même un des précurseurs, en fait, sur les jardins, ce qu'on appelle composites. Donc, les jardins composites, c'est un mélange, en fait, finalement, des jardins à la française et à l'anglaise. Et donc, en fait, on peut voir à travers ce parc que c'est certes très ouvragé et très régulier à la française sur les façades du château, mais comment dire, assez proche du château. Mais plus on s'éloigne du château, et plus c'est finalement un parc à l'anglaise, quoi. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'il y a un parc gigantesque et qu'effectivement, cette maison elle serait emblématique à restaurer, ne serait-ce que pour les futurs jardiniers qui seront sur place. Mais je crois que de mémoire, il y a la mairie qui a un projet de réhabiliter la maison de la RR, qui est un petit peu plus loin au niveau de l'étang, et qui est en fait l'ancienne maison du meunier du domaine.
Et oui, c'est vrai qu'il y avait de l'eau à cet endroit-là.
Beaucoup, oui.
Oui, parce que alors, je suppose que d'ailleurs cette eau servait au site industriel, parce que qui dit industrie dit eau, hein, enfin en général, surtout autrefois. Hein, donc forcément, je pense que ça aura... D'ailleurs, ça n'a pas été une gêne, parce que des fois, on doit faire des... Comment dire, remettre en état des sols qui ont été utilisés par des procédés auparavant. Il n'y a pas eu de soucis par rapport à ça.
Alors, effectivement, c'est pour ça que les maîtres des forges sont venus, c'est qu'il y a cet étang d'Abbesse avec une grande chute d'eau et qu'ils ont exploité pour l'industrie. Après, je t'avouerai que je ne suis pas très compétent sur cette partie-là de l'époque. Je peux juste résumer en fait que, voilà, en gros, il y avait à peu près entre 400 et 500 personnes qui travaillaient. C'était un petit peu une ville dans la ville, Abbesse, avec de nombreuses métairies. D'ailleurs, quand on se penche sur les planches de Vacherot et le projet qui s'appelle finalement Grand Parc Forestier, le projet de réaménagement du domaine, on se rend compte que dans les servitudes imposées par Daniel Boulard, ben, il y avait en fait, en gros, conservé toutes ces métairies quoi, qui ont fait la richesse du domaine. Voilà. Après, sur tout ce qui est eau, c'est un site qui est très très riche en eau. Il y a des sources, Marie pourrait en parler également. Il y en a partout. Quoi.
Très bien. On va faire notre nouvelle pause. Hein. Écoutez le flash info local parce que le temps passe, les amis. Et nous voilà de retour. Alors, tout ça, ça représente pas mal de travail. Donc, encore une fois, j'invite les auditeurs à aller voir votre chaîne YouTube. Hein, parce que bon, là, au moins, on verra des images, comment c'était avant, maintenant et tout. C'est un grand travail. Alors, vous êtes combien à avoir fait tout ça? L'association elle-même, hein, combien vous êtes de membres actifs qui ont participé avec leurs petites mains à défricher, etc.
Alors, combien de membres? Nous sommes à peu près 10 actifs qui travaillons régulièrement sur le site. Et ensuite, nous avons aussi des sympathisants qui entourent une quarantaine.
D'accord.
Voilà. Ce qui est très appréciable, puisque grâce à ces rencontres aussi, puisque c'est aussi une histoire d'échange et de partage, on a pu accéder à d'autres ouvertures, hein, notamment on avait des réflexions sur, par exemple, d'ordre botanique ou d'arbres qui étaient malades. Donc on est allé aussi en dehors de Saint-Paul. On est allé voir un spécialiste, c'était Pascal Ducos, voilà, qui est spécialiste des champignons.
D'accord.
Voilà, donc il nous a donné aussi des conseils pour nos arbres qu'on pensait malades. Voilà, donc on travaille aussi en partenariat. C'est une histoire d'échange.
C'est ça, vous avez un réseau, on en a parlé en antenne.
Voilà, on a rencontré aussi Jean Taubi, qui nous a énormément conseillé sur comment aménager notre parc, comment aussi en prendre soin.
En fait, c'est un lieu d'échange et de partage, hein, Abbesse, avant tout. Et c'est ce que disait justement en disant en off. Ces personnes dont Marie parlait, comme Pascal Ducos, je ne sais pas si c'est bien de les citer, mais on a quand même pas mal de personnes qui sillonnent le site, qui viennent et qui font des études, entre guillemets, sur le site et qui viennent partager, admirer et comme disait Christine aussi, se prendre du temps, se ressourcer, quoi. Tous nos adhérents ont cette démarche à la base.
Je pense que c'est vraiment chaque adhérent a eu de l'engouement quand on vous a rencontré et de voir aussi ce que vous faites sur un lieu qui était complètement en friche. Moi, je suis fascinée de voir qu'au bout de 3 ans, on arrive à une telle perfection, entre guillemets, enfin de choses aussi carrées, aussi bien. Et c'est vrai que ça fait du bien quand on pense partir pour une petite balade en forêt, à pied ou en vélo, et qu'on découvre ce lieu et toute la richesse historique qu'il y a sur ce lieu. C'est fascinant, quoi. Et donc, c'est un lieu très ressourçant. C'est vrai que c'est un endroit qui est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait envie de venir bouquiner là tout un après-midi, ben, il a le droit. Ce qui fait qu'il serait à la moitié, je dirais, comme s'il était dans un jardin de ville, très cadré, avec des jolies fleurs bien placées, etc. Et en même temps, il a toute la forêt à côté aussi, avec toute la force de la forêt, l'énergie de la forêt à côté, quoi.
C'est ça. En fait, il y a beaucoup de randonneurs. Et d'ailleurs, on les croise tous les jours parce qu'en fait, ce sont eux qui sont sur le bord de la route où il y a le jardin à la française. Et ils nous félicitent. C'est toujours un grand plaisir d'avoir leur encouragement. Mais au-delà, comme disait Christine, en fait, le site, il est assez grand. Finalement, il y a le chêne de Nert qui est pas loin. C'est très propice à la randonnée, à la course à pied, au vélo. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, quoi. C'est vraiment un site où on peut passer toute la journée, quoi. C'est C'est hyper agréable, même pique-niquer, quoi. C'est ce qu'on fait tout l'été, nous, hein, sur site, là-bas.
C'est ce que nous dit aussi Christine à la pause. Elle disait qu'en fait, il fallait maintenant aussi le faire vivre, ce lieu. Hein. C'est qu'il l'habitait, il faire que les gens puissent savoir qu'effectivement, ils peuvent y aller. Et s'il peut s'y passer des choses, ce serait pas mal aussi.
Alors, dans les choses qui s'y passent, il y a déjà ce qu'on vit, nous, parce qu'on a quand même l'occasion, à chaque journée du patrimoine, d'inviter des gens et de le faire connaître, de le faire visiter. Et de le faire connaître. Alors, on a quand même des contraintes. Hein. C'est vrai que les bâtiments qui sont sur le côté ne nous permettent pas, par exemple, de recevoir des classes. Moi, je suis enseignante, donc je me dis si on pouvait y amener des enfants et faire des choses dessus, pas encore d'actualité.
Évidemment, oui.
Mais par contre, c'est vrai que dans le cadre de quartier, on peut recevoir des petits groupes et là effectivement leur proposer, pourquoi pas, enfin moi je suis assez fan de ça, des ateliers pour découvrir les plantes sauvages et pourquoi pas les cuisiner, donc il y a des choses qui sont là, toujours aussi pour faire que les gens redécouvrent l'histoire ou tout simplement se sentent bien, c'est-à-dire se sentent autorisés, parce que c'est un lieu qui est public, on le dit, même si c'est une association qui s'en occupe, c'est un lieu où les gens, il y a des chaises, il y a une table.
Ils sont chez eux.
Voilà, les gens qui ont envie de venir s'installer et s'asseoir pour peindre, pour lire, pour ce qu'ils veulent, échanger, faire un pique-nique, eh ben, là, c'est là pour ça, quoi.
Très bien. Alors, au niveau des connaissances, bon, j'ai bien compris que Pierre était professionnel
Non, pas du tout. Pas professionnel, mais...
jardinier, en tout cas. Enfin, quelque chose de similaire, en tout cas. Mais vous êtes parti d'où? Certains de zéro. Comment, techniquement, vous en êtes où? Vous avez fait comment?
Alors, en gros, t'as 4 jardins sur la façade du château. Et... moi, la première fois, je m'y suis rendu en 2023, en fait, et je suis passé de l'autre côté du ruisseau et j'ai aperçu des empierrements, en fait. C'était en plein été, on voyait absolument rien et j'ai bataillé, en fait, j'y suis allé 5 ou 6 fois et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces empierrements? Et j'y suis allé, en fait, et à un moment, j'ai trouvé finalement les jeux d'eau sur la façade nord du château. Et j'ai commencé avec mes petits outils à nettoyer ces escaliers. En fait, il faut comprendre que ces escaliers et ces bassins où les Saint-Paulois passent devant régulièrement, en fait, c'est la signature de l'architecte, Jules Vacherot. C'est-à-dire qu'en fait, il a reproduit ses bassins et ses escaliers à maintes reprises dans ses ouvrages.
Dans le Mont des Arts, notamment.
Notamment, tout à fait, le Mont des Arts.
Un très bel endroit que j'aime beaucoup.
Alors, malheureusement, ces bassins n'existent plus. Voilà, ça a été rasé en 54, sachant que, à la base, l'œuvre devait être juste éphémère pour l'exposition universelle. Mais il l'a reproduit aussi à Turin, à l'exposition universelle de Turin. Et pour de maintes propriétaires différents, notamment la villa des Cèdres, en Méditerranée, qui est la plus chère du monde actuellement. Qui était la propriété de Léopold II. Et puis notamment au château des Milandes, la propriété de Joséphine Baker, qui fut la propriété de Joséphine Baker, mais initialement le propriétaire est Monsieur Claverie. Et voilà, donc il a reproduit ça maintes et maintes fois. Et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai voulu, finalement, au début, j'ai commencé un petit peu tout seul, nettoyer ces escaliers. Et pour que les gens, je me suis dit, parce que c'était finalement un trésor artistique, et qu'il fallait surtout pas que ça s'oublie, puisque c'était sous 30 cm de terre. Et l'idée, ça a été de le mettre en lumière, justement, pour que les gens puissent en profiter, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de pique-nique. Ben, ça a été aussi ça, c'est-à-dire de venir pouvoir pique-niquer, encore une fois, profiter et se ressourcer dans les bois, puisque c'était vraiment dans les bois pour le coup. Voilà, ça a commencé comme ça, et puis ben, après les gens, ils ont commencé à vouloir venir faire la même chose en fait.
Et oui, c'est en forgeant qu'on devient jardinier.
Tout à fait.
C'est ça, et puis ben, les gens sont venus de plus en plus en voulant faire la même chose, et pourquoi ? Je ne saurais pas te répondre, en fait.
Parce qu'il y a un besoin. Un besoin de faire et un besoin de profiter d'un endroit aussi, j'imagine. Hein.
Oui, et puis j'ai envie de dire que quand on est venu passer des après-midi, on avait mal au dos. Hein, c'était quand même pas anodin. À arracher des ronces, etc.
C'est ça,
Mais on sentait, moi je sentais tout cet engouement, toute cette ferveur, un très bon groupe. On riait beaucoup, il y avait plein de choses. Et il y avait vraiment cette dynamique de faire ressurgir ce qui avait été caché et enfoui aux yeux des gens. On a vraiment l'envie de remettre en lumière, de faire rejaillir ce qui avait été là. Voilà.
Ouais, très bien. Mais c'est, alors bon, la question que je pose aussi, c'est au niveau de la doc. Il y avait suffisamment d'archives de l'époque, de ce que c'était ou pas,
et alors, la doc, c'est très simple. Hein, quand tu apprends à la ville que bah, finalement c'était la famille Boulard qui était propriétaire du domaine, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton annuaire et tu regardes la Boulard.
Oui.
Voilà, et puis tu tombes sur une maison à proximité du courant du Chien.
Eh oui.
Et puis tu tombes sur la personne en question et tu commences à dire ce que tu fais avec quelques personnes, que tu nettoies son ancien domaine et le lien se crée et l'amitié se noue et puis les choses se délient puisque on a aujourd'hui une des dernières personnes de la famille Boulard qui a vécu sur site et qui est membre d'honneur de l'association et également membre du conseil d'administration.
Ah oui.
Qui nous met à disposition en fait toutes les photos d'époque et tous les plans.
Et ça aussi, moi j'ai envie de dire en tant qu'adhérente, ça fait du bien de voir dans les yeux de Sophie quand on réhabilite des choses, qu'on lui fait revivre une partie de son enfance.
Et oui,
c'est très touchant quand elle vient et qu'elle nous dit ses souvenirs, de voir à quel point on a tous besoin, finalement la petite Madeleine de Proust a tous besoin de voir les lieux de notre enfance qui restent.
C'est voilà. Ça.
Même si c'est pas du tout le jardin.
Quand je vous parlais des anguilles tout à l'heure.
Eh oui.
On finit par remonter à la source, hein, qu'on le veuille ou non.
C'est ça. Et moi, même si je ne suis pas de la région, enfin, je ne suis pas landaise d'origine, mais je trouve ça chouette de faire renaître à chaque fois des choses et faire comprendre aux gens qu'est-ce qui était là.
Très bien. Eh bien, on va déjà faire notre dernière pause, les amis. Ça sera la dernière partie de l'émission. À tout de suite. Et voilà la dernière partie de cette émission. Alors voilà, Jules, on est l'association Jules Vachereau. Donc, on parlait donc de cette... Ce jardin que vous avez recréé. Et les projets, alors, donc on parlait, vous aimeriez bien en faire un peu. En fait, c'est beaucoup de boulot, mais en fait, vous avez envie d'en faire encore.
Ben écoute, oui, on a envie d'en faire encore. Après, bon, il y a deux hernies discales, tu vois, donc il y a un moment aussi, il faut lever.
Ah oui, c'est mauvais.
Non, après, bon, tu sais qu'elle se résorbe naturellement, normalement.
Oui,
oui, bien sûr qu'on a envie d'en faire plus, mais bon. Comme tu dis, c'est déjà beaucoup de travail, d'entretien, et il reste encore trois façades à faire, bien évidemment. Mais bon, faut voir l'avenir, parce que c'est quand même la propriété de la mairie, c'est elle qui décide, qui est des grandes lignes, hein, finalement.
Oui, donc,
et puis derrière ça, il faut quand même des moyens, donc, et puis des machines, parce que bon, nous, on a tout fait à la main, parce que c'est un petit jardin, finalement. Mais les trois autres façades, et bon, ça nécessite quand même du professionnalisme, de la technique, et puis du savoir-faire, etc., puisqu'on est sur des jeux d'eau, des terrassements. Si tu veux, le jardin à la française, c'est très codifié, quoi.
Oui,
hein.
C'est ça. Ouais.
C'est très, très codifié. Hein. Donc bon, tout dépendra de la vision de... de l'avenir sur les jardins, quoi.
Oui, bien sûr. Alors j'imagine, justement, j'ai vu des images, des aquarelles, etc. J'imagine que des gens comme Jules Vachereau, c'était des dessinateurs, forcément. Hein, ils n'utilisaient pas Illustrator ni Photoshop. Ils devaient faire des sacrés dessins, des sacrés plans, des projections de leur jardin. Vous avez eu, j'ai vu une aquarelle, je vois qu'il sert pas mal de références. Elle vient d'où? C'est de lui?
Alors, c'est très intéressant que tu parles de ça, parce que cette aquarelle, en fait, justement, on a découvert il y a maintenant à peu près un an. Sa signature, c'est-à-dire qu'on voit le J et le V caché dans la végétation.
D'accord.
Et donc il a fait les beaux-arts et il était et bon, son parcours est long, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est lui qui avait pour habitude effectivement de faire une aquarelle à la fin des ouvrages pour les propriétaires.
D'accord, c'était une tradition un petit peu comme
la
photo,
je pense,
ou le,
tu vois, c'était un peu
le selfie de l'époque.
C'est ça un peu, hein.
Ouais.
Oui.
Et
alors on espère.
Oui.
On espère que Christine, peut-être, fasse une aquarelle.
Alors, moi, c'est vrai que c'est un lieu où j'aime bien venir pour me ressourcer. Je pense aussi que c'est un lieu propice à peindre. Et là, tout en vous écoutant, je me dis, mais oui, c'est un lieu, enfin, moi, personnellement, en tant qu'adhérente, où j'ai envie qu'il y ait des petites animations et des choses, parce que c'est un cadre magnifique où on peut proposer, pourquoi pas, des concours d'aquarelle, où on peut faire venir des musiciens qui viendraient chanter.
C'est
quand même
pas
plus
mal,
joli
ça.
Qu'une salle. Ouais, voilà. Et c'est vrai que le but, c'est pas que ce lieu-là soit juste pour nous. Nous, dans l'association, ce qu'on a envie, c'est de vraiment l'offrir au plus large public possible.
Bien sûr,
quoi. Et que, oui, y proposer des petites animations ponctuelles pour que des gens se rassemblent là.
Ça a déjà été le cas, hein, sur l'année 2025. On a eu énormément d'événements, hein, puisque l'association a la provocation, la valorisation des ouvrages de Vachereau. On a visité notamment son chef-d'œuvre à la Bastide-Villefranche. Il y a une association d'ailleurs qui travaille à la valorisation de ces jardins. avec qui on a sympathisé un petit peu, mais on est également sur plein de d'activités, hein, que ce soit, je crois, avec la Maison de l'Europe, on a fait visiter à des jeunes les jardins.
On a fait venir des gens du Danemark.
On a fait venir l'Association des parcs et jardins de France également. On prépare d'ailleurs un concours là-dessus avec la Fondation du patrimoine. Et bon, bref, il y a les journées du patrimoine aussi, les journées botaniques au parc du Sarat, puisqu'ils nous connaissent, hein, bien évidemment, ils savent ce qu'on fait. Et donc voilà, on a plein d'activités et puis des pique-niques sur place l'été, et ça c'est régulier quand même, hein, donc c'est le, on en revient à, voilà, au profiter du site et se faire plaisir, randonner, faire du vélo, jardiner,
c'est ça.
Mais en fait, ce Jules Vacherot que je connaissais pas du tout il y a 3 ans, il nous emmène très très loin, quoi, dans des recherches et dans des histoires qu'on s'imaginait pas. Voilà.
Et après, tu as une biodiversité. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, on peut étudier ça. C'est un laboratoire à ciel ouvert, finalement, à Besse.
Oui.
Donc, Marie, elle n'a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai qu'au niveau floral, fleurs sauvages, tu as une flore extraordinaire.
Non, au départ, sur une zone humide.
Aussi. Des oiseaux aussi.
Ouais.
On est sur une zone humide.
J'ai vu les. Alors, le nom. C'est Léotérix, ou je crois, on appelle aussi le rossignol du Japon.
Oui.
Il y en a un groupe, là, qui ont essaimé depuis le Béarn, hein, puisqu'ils sont partis de Pau, en fait. Hein. Et en fait, ils envahissent petit à petit en suivant les cours d'eau. Mais ils ne sont pas... Ils ne sont pas ravageurs, donc ils ne sont pas considérés comme nuisibles. Et ils sont très beaux. Très, très beaux. Donc là, j'en ai vu dans le coin. Je sais qu'il y en a. Voilà. J'aime bien les oiseaux.
Et puis tu as le pinoir.
Oui, voilà.
On a une adhérente qui va peut-être faire un livre dessus. Justement, c'est un oiseau particulier que tu entends quand tu vas à Besse. Il hurle. C'est l'horreur, quoi.
Il est sur une vidéo, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Je l'ai vu. On en parle en tout cas.
Mais là, c'est la saison. Hein. Là, il est en train de hurler et après, il tape sur les murs. Quoi.
Voilà.
Il est en train de nicher, de faire
ça. Ça peut m'arriver aussi. Hein. Bon, mais on va devoir en rester là. Mais donc, il faut maintenant que les gens qui ne le savaient pas encore, que cet endroit est disponible, il est là. Il faut qu'ils aillent le faire vivre et en profiter. Parce que voilà, maintenant, on peut en profiter. Maintenant qu'il est tout beau. Je sais qu'il n'est pas encore au plus beau parce que les fleurs ne sont pas encore là. Mais ça ne va pas tarder. On est quand même sur la bonne pente.
Il y a des camélias.
Oui,
les camélias sont en fleurs. Et le magnifique magnolia aussi est en fleurs. Donc, même le magnolia est en fin de floraison. Il a laissé son beau tapis de pétales au sol. C'est magnifique.
Ouais, c'est beau, ouais.
Non, mais les camélias, on peut encore venir les visiter, les voir.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous partager votre passion, parce que ça, on l'entend, on la sent. Hein, vraiment,
merci à toi, Jean-Philippe.
Merci
à vous. Et puis voilà, merci d'avoir fait... vivre cette partie du patrimoine du coin et pour que les gens puissent de nouveau en disposer. Merci beaucoup.
Merci Jean-Philippe.
Merci, tu es bienvenu. À bientôt.
Je vais être obligé. Là, je suis obligé.